le masque, le gel et la plume. Bonjour à toutes et à tous, vous les fidèles auxquels nous voulons être fidèles pour ne pas rompre le lien qui nous unit depuis si longtemps. Voici donc, en ce dimanche 5 avril, le troisième épisode du Masque et la Plume pour temps de confinement, consacré aux films qu'on peut voir chez soi en DVD, Blu-ray, VOD, avec chacun chez soi et tous ensemble, Charlotte Lipinska de Vogue, Éric Neuhoff du Figaro, Nicolas Chalère de l'Obs, Xavier Le Herpeur de 7e Obsession et d'une heure en série. Au programme du jour, des films qui devaient sortir en salle ces jours-ci, restaurés, remasterisés, ripollinés, mais qu'on peut se procurer de mille façons pour les voir sur son écran domestique. Le jardin des Finzi Contini, À bout de souffle, On murmure dans la ville, Sexe fou, India Song et Rendez-vous, sans oublier évidemment vos précieux conseils de fin d'émission. Dans le courrier de la semaine de Londres, Barbara Muller nous dit que le masque est son bonheur du lundi matin. Cette semaine, lors de mon jogging à Regent's Park, en croisant des humains, j'ai été surprise de les trouver souriants. Ils souriaient parce que je souriais en vous écoutant. Le rire est contagieux et vous m'avez infecté, ainsi qu'une bonne partie de Regent's Park. Elsa Cluet, merci de maintenir cette émission coûte que coûte. Je suis confiné chez moi seul avec l'impression que ma vie m'échappe et que je vais devenir dépressive, folle, obèse. Entendre vos voix a donc été le rayon de soleil de ma journée. Merci de nous offrir une échappée à ce quotidien anxiogène. Camille qui a déjà vu, comme vous je crois, 4 fois la flore, filmant 6 épisodes, vous vous souvenez, hein, 13h30 de programme de l'Argentin Mariano Linas, dit qu'elle profite du confinement pour revoir et revoir ce film dont elle ne se lasse pas et elle nous conseille de faire de même. Hélène de Noisy-le-Grand préconise pour sa part Soyez sympa, Rembobinet de Michel Gondry, une comédie sur l'amour du cinéma qui donne un sentiment de gaieté et qui est disponible en VOD. Jérôme Duvivier de Lyon suggère aux auditeurs cinéphiles et confinés du Masque et la Plume un duo drôle, inventif et poétique, c'est Abel et Gordon dans la veine de Jacques Tati, nous dit Jérôme Duvivier de Pierre Etex, et toute la tradition burlesque. Je recommande en particulier Rumba, L'Iceberg et Paris pieds nus. Et je laisse le mot de la fin du courrier hebdomadaire à James Bourran qui nous dit « Autant pour les films, je vous maudis quand vous nous divulgâchez la fin, mais pour la crise du coronavirus, surtout n'hésitez pas. Et merci de réussir à continuer votre émission. » Et on commence avec « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, qui sortira ou qui sortirait, si tout va bien, en copie neuve et version restaurée le 20 mai, mais qu'on trouve déjà en DVD et VOD. Le premier film, vous le savez, de Godard, et le plus emblématique peut-être de la nouvelle vague, tourné en lumière naturelle et caméra à l'épaule, qui date de 1960, où Jean-Paul Belmondo tue sur la Nationale 7 un motard de la gendarmerie qui voulait le verbaliser, et tente à Paris de convaincre une étudiante américaine, Patricia, c'est Jean Seberg, de coucher avec lui, tandis que les flics sont à ses trousses et qu'il essaye de filer en Italie. On ne dira pas, évidemment, aux oublieux comment ça se termine, avec, ça j'aime beaucoup, feu l'écrivain Daniel Boulanger dans le rôle de l'inspecteur de police, et un casting de figurants en forme de clin d'œil, puisqu'il y a Jean-Pierre Melville, José Benazeraf, Roger Hanin, André Labarthe, feu le critique du Masque et la Plume de cinéma Jacques Siclier, qui joue un journaliste à Orly, Jacques Rivette, Jean Douchet, Philippe de Broca, j'en oublie, et même Godard soi-même dans le rôle d'un mouchard. Un chef-d'œuvre, disait Truffaut, qui a changé le visage du cinéma. Est-ce que c'est votre avis, Xavier ?
Oui, c'est incontestablement un film qui fait date. C'est un film qui brise énormément des codes qui jusque-là régissaient le cinéma, on va dire classique. Tu l'as très bien dit, autrefois on tournait en studio avec des dialogues extrêmement travaillés, extrêmement ciselés. Maintenant, on est à l'extérieur avec une lumière naturelle. Il y a une spontanéité absolue, il y a une envie en tout cas d'en découdre avec les codes habituels du cinéma, de réinventer énormément de choses. C'est un film à la fois très spontané et très travaillé. Il y a des cadrages, il y a des obliques, il y a des perspectives qui sont absolument passionnantes. Il y a des plans-séquences aussi qui sont assez époustouflants à l'intérieur du récit. C'est un film qui est innervé par le jazz dès le début, quand Belmondo est au volant de sa voiture. Il y a de la musique, on a l'impression qu'il joue avec elle, qu'il est un instrument à part entière de la partition musicale. Et comme le jazz, c'est à la fois quelque chose de très travaillé, de très mathématique, de très réfléchi, en même temps de très spontané, de très envolé, de très libre. Et le film ressemble constamment à la musique avec laquelle il joue. Il y a des petits problèmes pour moi de scénario. Après, il y a des fulgurances, il y a des choses novatrices, il y a des choses intelligentes. Voilà, c'est effectivement un film dont on s'est beaucoup inspiré par la suite. On peut penser par exemple au Cléo de 5 à 7 de Daniel Varda 2 ans plus tard. Mais effectivement, c'est un film culte, c'est un film clé, c'est un film charnière et c'est un film passionnant à retrouver et à redécouvrir, même si pour moi, il y a des petits soucis de scénario.
Eric, c'est pas ton film de chevet ?
C'est un film sur lequel je ne m'endors jamais, parce que c'est un film qu'on voit toujours pour la première fois. C'est ça qu'il y a d'épatant. Et entre la première phrase « il faut » et le dernier mot prononcé qui est dégueulasse, il y a toute la révolution du cinéma. C'est un film qui a dû changer non seulement la vie de Godard, mais aussi celle des spectateurs, parce qu'on ne regarde plus du tout les films de la même façon après ça, et que le film tient formidablement bien le coup. C'est potache, c'est intelligent, c'est moderne, c'est dans un magnifique noir et blanc. On voit qu'à l'époque, Godard était vraiment quelqu'un qui retombait sans cesse sur ses pieds, qui devait arriver le matin sans avoir d'idées préconçues et qui pouvait trouver des répliques, des situations comme ça à brûle pour point. Comme on dit, à l'époque, il ne cherchait pas, il trouvait. On cite Faulkner, on lit Abracadabra de Maurice Sachs. C'est tellement réussi qu'on oublie que Belmondo est quand même un type qui a buté comme ça sur le champ un motard. Et on a envie de partir avec lui pour Rome. Et c'est un film sur ce que c'est que de tomber amoureux. Et pour paraphraser une des répliques du film, moi je dirais, si vous n'aimez pas Belmondo, si vous n'aimez pas Godard, si vous n'aimez pas ce film, allez vous faire foutre.
Charlotte, qui est un peu notre Jill Seberg du Masque et la Plume, qu'est-ce qu'elle en pense ?
Je vous remercie, mais alors après cette sortie d'Eric, ça va être difficile d'enchaîner. Non, Eric, moi je ne vais pas du tout aller me faire foutre, parce qu'effectivement, je suis comme vous, assez dingue devant ce film, qui est d'une liberté, d'une audace absolue. Quand on pense qu'il était interdit au moins de 18 ans à l'époque, c'est quand même fou de voir le trajet qu'on fait aujourd'hui, parce qu'à vrai dire, quand on le revoit, on est assez stupéfait par l'audace formelle du film. Enfin, il n'y a rien dans le fond qui justifie une interdiction au moins de 18 ans.
Oui, mais on a à nouveau 18 ans quand on le revoit.
Absolument, c'est ton éternelle jeunesse, Eric. Mais moi, ce qui me fascine aussi, c'est qu'on parlait de l'image. On peut aussi signaler peut-être Raoul Coutard, qui était quand même le chef opérateur du film et à qui le film doit beaucoup. Parce que comme il était un ancien reporter de guerre en Indochine, il était habitué à travailler sans lumière, enfin en tout cas en lumière naturelle, avec une caméra à l'épaule. Il pouvait se contorsionner dans tous les sens pour rentrer dans une petite pièce et pouvoir filmer la scène. Et effectivement, Godard n'aurait certainement pas fait ce film avec un chef opérateur classique ou en tout cas tel que travaillaient les cadreurs à cette époque-là. Et puis, ce qui est vachement fou aussi, c'est que j'ai lu récemment une interview de Pierre Rissian, notre regretté collègue, qui était premier assistant sur le film et qui raconte qu'en fait, il y a des tas de trouvailles de Godard qui étaient complètement inconscientes. C'est-à-dire, il a révolutionné le cinéma, mais sans le vouloir. Et d'une certaine manière, de son incompétence ou de ses maladresses, c'était son premier film, il ne savait pas comment faire et il a fait des séquences au début terriblement longues. Et au moment du montage, le producteur lui dit « Non, mais c'est pas possible, là, le film, c'est beaucoup trop long. » Et donc, Godard, qu'est-ce qu'il fait ? Plutôt que de couper des séquences entières, il décide de couper à l'intérieur des séquences. Et c'est comme ça qu'il a inventé le jump cut et ce fameux montage complètement fou avec cette scène inaugurale dans la voiture. Donc, c'est là, on se dit, voilà, c'est du pur génie, quoi.
Nicolas ?
Je vais rajouter ma voix à ce concert de louanges parce que, enfin, j'avais pas vu le film depuis très longtemps et c'est vrai que c'est, moi, bon, voilà, je l'ai revu là, mais j'ai l'impression que c'était vraiment la première fois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une jeunesse dans le film. Et alors, la modernité du film qui saute aux yeux, effectivement, vous l'avez dit, les jump cuts, le tournage in situ, les adresses caméras, même tout ça, elles ont tellement fait floresse depuis, elles ont tellement nourri d'autres le cinéma que ce n'est même plus ça qui saute aux yeux aujourd'hui, c'est vraiment la jeunesse du film, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment l'impression que je vais aller sur les champs et on se surprend à rêver que Bébel a encore 26 ans, que on va trouver des jeunes femmes qui vont de la tribune à la sauvette. Il y a quelque chose il y a quelque chose de très rock'n'roll et de très jeune dans ce film qui est frappant 60 ans après. Et moi, la scène des 25 minutes dans la chambre de Bonne, c'est quand même le plus charmant confinement qu'on ait vu au cinéma. Et encore une fois, le nombre de répliques qui font mouche aujourd'hui encore, et cette magnifique résumé de l'existence, que je ne sais pas si je suis malheureuse parce que je ne suis pas libre ou si je ne suis pas libre parce que je suis malheureuse, dite en anglais par Spielberg, c'est absolument sublime. Donc vraiment, c'est un film du bonheur de chaque instant, quoi.
C'est à bout de souffle de Godard. J'espère qu'on sera déconfiné le 20 mai quand il sera présenté en salle dans sa version restaurée. India Song, film de Marguerite Duras, dont la ressortie en salle, mais on n'y croit plus évidemment, était annoncée pour le 15 avril avec Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, Mathieu Carrière, Didier Flamand, Claude Mann, un film de 1975 en forme de poupée russe puisqu'il est adapté de la pièce de Duras, publiée 2 ans plus tôt, elle-même tirée de son roman Le Vice-Concile, paru 10 ans plus tôt. Il ne manque que la version musicale pour avoir la totale. India Song, dans les années 30, à l'ambassade de France en Inde, quand elle était britannique, des voix se souviennent de feu Anne-Marie Streeter, la femme de l'ambassadeur inhumée au cimetière de Calcutta et dont le vice-consul de France à Lahore était fou amoureux, un film où Duras se vantait, je dis bien se vantait, d'avoir désynchronisé ce qu'elle appelait le film des voix et le film des images. Bref, tout est en voix off. Ce qui est amusant, c'est que Lonsdale a dit après le tournage qu'en fait, elle ne comprenait rien au mixage. Petit détail, les deux assistants à la réalisation étaient Benoît Jacquot et le fils de Duras, Denis Mascolo. On connaît le mot terrible et fameux de Pierre Desproges. Duras n'a pas écrit que des conneries, il en a aussi filmé. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric?
Oh bah, beaucoup de bien, parce qu'en ce moment, on n'a pas tellement l'occasion d'avoir d'aussi intenses parties de rigolade. Ces voix off niaiseuses, elle vient de Savannah Bay, toutes ces phrases qui se terminent par « oui ». Alors, on pourrait faire du India Song, « c'était le masque et la plume », »,« oui, il y avait Jérôme Garcin », »,« oui », etc. Et on voit que le Gange, en réalité, c'est les étangs de Hollande. Il y a les deux plus mauvais acteurs de l'époque, qui sont Claude Mann et Mathieu Carrière, toujours en smoking ou en costume blanc.
Mathieu Carrière n'est pas si mauvais que ça.
Non, mais il est bien habillé. Et puis Lonsdale, en vice-consul, comme tu disais, grâce à lui, on sait ce que c'est que le brame du haut fonctionnaire en exil en Inde. Tous ces hurlements, toutes ces pauses immobiles dans des tenues de soirée, là, comme dans des publicités pour Ralph Lauren, c'est vraiment un film qu'on doit regarder les yeux fermés à cause de la musique magnifique de Carlos D'Alessio.
Et Nicolas?
Bah c'est ça, je crois. Moi, honnêtement, je n'avais pas vu le film. Je l'ai découvert et j'ai l'impression de ne toujours pas l'avoir vu. C'est-à-dire que
l'as-tu vu, Nicolas? L'as-tu vu jusqu'au bout?
Oui. Non. J'avoue que même en période de confinement.
C'est tentant, hein.
Mais est-ce que c'est un film?
Ce qui est fou, c'est de se dire que ce film a été quand même choisi pour représenter la France aux Oscars à sa sortie. Et je pense que la photo de Nuitaine, qui est absolument splendide, et effectivement la musique de Carlo D'Alessio sont un peu ce qui fait qu'on, à l'époque, c'était assez chic et qu'il y avait quelque chose. Je pense que c'est le seul Duras, d'ailleurs, dont certaines personnes osent encore revoir. Mais il y a vraiment, c'est vraiment, enfin, c'est un défi à l'ennui.
Ah bah, dans son genre, il est devenu un peu.
C'est ça. Mais moi, j'ai vraiment, c'est un défi à l'ennui, mais qui dépasse tout. Alors après, s'il faut passer tout le film à essayer de reconstruire des phrases pour comprendre que effectivement, ça part de la colonisation, des atermoiements coupables de tous ces ambassadeurs qui s'ennuient et qui s'aiment, et de la lèpre qui fait les ravages aux alentours, enfin, en Inde, puisque en fait, ça a été retrouvé à Boulogne, mais c'est censé se passer en Inde. On imagine bien que effectivement, Duras a du souvenir de son enfance et de tout ce qu'elle a. Mais là, c'est vraiment non, c'est terrible. Et je suis retombé sur une phrase de Duras qui m'a un peu plus fait comprendre les choses, c'est qu'elle avait quand même dit: je fais des films pour occuper mon temps. Si j'avais la force de ne rien faire, je ne ferais rien. C'est parce que je n'ai pas la force de m'occuper à rien que je fais des films. Bah, on aurait préféré qu'elle s'occupe à rien et qu'à la limite elle soit confinée, parce que vraiment c'est très douloureux. Et je suis pas complètement allergique à sa prose, parce que je trouve que La Douleur, par exemple, est un livre vraiment très 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 beau. Pour moi, elle n'a rien compris au cinéma, mais bon, je ne suis malheureusement pas seul ici.
Ah, je vois que tu n'as pas vu le camion. Charlotte, essaye de sauver un peu Marguerite Duras, s'il te plaît.
Je veux bien faire tout mon possible, Jérôme, mais enfin, je ne suis pas Wonder Woman et c'est une mission impossible. Parce que très honnêtement, moi je suis comme Nicolas, j'ai découvert là le film et le conseiller aux gens aujourd'hui, ce serait uniquement pour soit les étudiants de cinéma ou les collaborateurs d'une émission de radio qui obéissent aux ordres d'un directeur sadique. Parce que Jérôme, nous mettre India Song là en période de confinement, c'est vraiment très 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 difficile.
Encore une fois, je me suis fié, j'ai essayé de faire un programme qui tienne compte des sorties de tous ces films remasterisés en salle. Hein.
Non, mais alors, après, au-delà de ça, quand même, effectivement, oui, il y a l'ennui, il y a une sorte quand même de... Il faut remettre ça dans son contexte, le film date de 75, et d'une certaine manière, elle a, elle aussi, essayé de déconstruire, on va dire, tout le langage cinématographique de l'époque. Alors, c'est des plans d'une lenteur infinie, on a le temps de tuer un âne avec une casquette entre deux répliques, le son, donc on l'a dit, est entièrement en son off, on va dire, il n'y a aucune réplique qui sorte de la bouche des acteurs et toute cette narration qui oscille entre le présent, le passé pour nous raconter cette histoire, soit ce sont les voix des protagonistes, soit de narrateurs, voire même plusieurs narrateurs, on ne sait même pas qui c'est, on reconnaît un peu la voix de Duras. À certains moments, quand on s'accroche un peu et voilà, on prend ses crampons et on y va, il y a, moi je trouve, à certains moments au milieu du film quand même une beauté vénéneuse qui se dégage de tout ça avec des plans qui sont des tableaux, en fait, plus que des plans, puisque tout le monde est immobile dans le cadre et on voit juste que la connexion n'a pas bugué parce qu'il y a les volutes de cigarettes de fumée qui bougent. C'est le seul truc qui bouge du plan. Donc, on se dit, ah, c'est pas une image figée. Bon, c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts et que j'ai pas forcément envie de le recommander aux gens en ce moment, quoi. C'est
rude. Je sens au silence de Xavier que... Il a peut-être pas totalement détesté India Song.
Moi, j'avais vu le film quand j'avais 20 ans et je pense que j'avais dormi 40 fois. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que, comme on dit souvent, la vieillesse est un naufrage? À mon grand âge, j'ai redécouvert le film. Il y a un travail sur le cadre, sur les entrées, les sorties gardes. Il y a une idée absolument magistrale dans le film qui est un immense miroir central à l'intérieur du cadre qui fait que quand les personnages sortent du cadre du cinéma, ils y reviennent par le principe du reflet du miroir, ils montent un escalier, donc le hors-champ devient plein cadre, il y a quand même des idées de mise en scène.
C'est et pas dans La Dame de Shanghai déjà ça?
Je suis quand même ravi, non mais ça peut être ailleurs.
Ben, c'était moins ennuyeux disons.
Et puis je vous admire tous et toutes quand même d'avoir traversé la critique de liaison sans citer le nom quand même de Delphine Seyrig,
absolument,
qui apporte de l'incarnation, qui apporte de la beauté, qui apporte déjà effectivement quelque chose d'abstrait, de concret, de sensuel et de charnel. Et ben je suis désolé, oui, j'ai vieilli, je suis sûrement devenu un vieux con, mais ça, con, je l'étais déjà depuis très très longtemps.
Je te rappelle, Xavier, qu'à l'époque où tu as vu India Song, tu étais encore un prometteur jeune médecin, hein. Tu étais oui. Encore en études de médecine.
Absolument.
Et voilà, ça nous manque aujourd'hui que tu sois médecin. C'est donc le India Song de Marguerite Duras. Vous en ferez ce que vous voulez, hein, vous irez. Vous le demanderez en VOD ou pas. Le même 15 avril devait sortir en salle, en version restaurée, lui aussi, Le Jardin des Finzi Contini de Vittorio De Sica, un film de 1970, on est donc 5 ans avant India Song, adapté du roman de Giorgio Bassani, film qui avait remporté l'Ours d'Or à Berlin et l'Oscar du meilleur film étranger, avec Dominique Sanda, Helmut Berger, Fabio Testi, Romolo Valli, la chronique en pleine montée du fascisme et de l'antisémitisme dans l'Italie mussolinienne de 1938. La chronique donc des relations amicales et amoureuses entre jeunes de la bourgeoisie et de l'aristocratie juive de Ferrare, avec au centre du récit le vaste domaine des Finzi Contini comme coupé du monde en marche derrière ces murs où on refuse de croire encore à la menace, et alors que pourtant les Juifs sont interdits aussi bien d'université que de cours de tennis. Est-ce que tu l'as vu ou revu, Charlotte?
Je l'ai vu. J'ai été assez saisie d'abord par la beauté plastique du film, le travail sur la lumière, c'est-à-dire qu'on voit les saisons passer dans ce jardin qui est la métaphore d'un monde qui disparaît, c'est l'innocence de l'enfance, comme un îlot d'insouciance à tout ce qui se passe au-delà des murs de cette magnifique propriété. Donc esthétiquement, je trouve le film très très beau et même assez étonnant, parce que sur la fin de carrière de Vittorio De Sica, il avait quand même pas fait que des chefs-d'œuvre. Et là, tout d'un coup, je trouve un film assez flamboyant dans sa forme.
Petite parenthèse, le film est très fidèle au roman de Bassani que je vous conseille également de lire. Fin de parenthèse.
Et après, alors pendant le film, j'étais assez troublée, on va dire, parce qu'il y a donc une mélancolie qui se dégage avec ce personnage très énigmatique de Dominique Sanda, où ils vont tous passer de l'adolescence à l'âge adulte. Mais il se trouve que nous, en tant que spectateurs, on sait ce qu'il advient. C'est-à-dire, il y a la montée du fascisme et les lois anti-juives qui sont promulguées de jour en jour. Et eux sont maintenus dans cette léthargie estivale un peu insouciante. Et donc, ça a créé chez moi une sorte de malaise où on a quand même un peu envie de les réveiller, à se dire « Non, mais attends, là, ta partie de tennis, il y a peut-être autre chose qui se joue. » Et en même temps, plus le film avance, plus j'ai été extrêmement émue. Alors, je sais qu'il ne faut pas divulgâcher la fin du film, mais bon, on peut considérer que certainement que les auditeurs du Masque et la Plume connaissent...
Je veux pas que tu racontes la fin, mais tu as raison.
Il y a la guerre.
On a fait ce film un peu le portrait aussi d'une très grande inconscience collective d'un milieu qui n'a pas vu...
Un aveuglement qui venait
pourtant très violemment. Hein.
Qui ne se rend pas compte de ce qui se passe dans les rues ou dans d'autres quartiers. Et donc, je trouve que le film est très intéressant dans ce double mouvement un peu contradictoire, qui est un mouvement d'élévation de cette jeunesse qui apprend à avoir une pensée qui se construit et des sentiments amoureux qui naissent. Et un mouvement contradictoire de paralysie par la grande histoire qui va donc les briser dans cet élan, on va dire dans leur élan. Et voilà, donc je trouve ça assez bouleversant. Et puis revoir Dominique Sanda qui a encore ses rondeurs juvéniles, qui était d'une beauté stupéfiante, c'est émouvant quoi.
Xavier, j'aime énormément la manière dont Vittorio De Sica et son directeur de la photo quand même, Ennio Guarnani, travaillent quelque chose. C'est même pas un monde qui est en train de s'effondrer, c'est un monde qui est déjà mort. Pour moi, le film est une sorte de piège du temps qui s'est effondré, qui s'est arrêté. Il semble revivre d'ailleurs constamment cette espèce d'éden de bonheur, un peu artificiel, un peu factice, un peu appuyé. Charlotte a raison, on a envie de les réveiller, mais je crois qu'ils sont déjà morts. Je pense que ce sont tous des beaux endormis, hélas, devant l'éternel. Il y a quelque chose de poignant dans cette image ouatée, c'est ralenti. Pourtant, c'est un mouvement de caméra que je déteste, un mouvement de cinéma que je déteste, le ralenti. Mais là, il est remarquablement utilisé, comme le sont d'ailleurs les flashbacks. Tu as raison, c'est très proche du roman de Bassani, mais en même temps, il n'y avait pas de flashback dans le roman. Tout était chronologique, c'est-à-dire les scènes d'enfance, elles étaient au début du roman. Et là, l'idée de les intégrer comme ça, en souvenir, en réminiscence, en boucle, prouve bien que les choses se sont arrêtées et que la mort a fait son travail. Je trouve que c'est un film, dès le départ, bouleversant, magnifique. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu.
Éric, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est un monde qui te ressemble un peu, ce domaine des films y continui.
J'y étais. Il y a le bruit des balles de tennis, les sonnettes des vélos qui roulent dans les allées de ce grand parc avec cette maison magnifique qui est comme un refuge au milieu de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et ces adolescents qui s'aiment. Il y a un côté proustien aussi dans le livre. Là.
Très vrai.
Ce narrateur qui est amoureux d'une fille qui n'est pas son genre, qui n'est pas faite pour lui. On comprend qu'il en soit amoureux puisque c'est Dominique Sanda qui était magnifique. Et on voit aussi que le roman était beaucoup plus fort que le livre, je trouve, parce que c'est un joli film, presque trop joli. De Sica a un peu abusé d'une musique guimauveuse et puis de beaucoup de soleil qui frissonne à travers les branches des arbres. L'histoire de ce domaine, de cette famille, de cet étranger, puis le fascisme qui monte à l'extérieur... C'était presque un sujet pour Bertolucci et ça prouve aussi que de façon très décorative, l'élégance et la culture ne peuvent rien contre la barbarie, contrairement à ce qu'on aimerait espérer. Et le film aurait pu s'appeler « Riche, snob et inconscient
». Nicolas ?
C'est intéressant que tu cites Bertolucci parce que la même année, Bertolucci fait « Le conformiste » qui parle aussi du fascisme.
Avec Sanda.
un autre angle avec Sanda. Et c'est là où moi, pour une raison, plus cinématographique, j'allais dire que je préfère le conformisme, parce que le conformisme, justement, il y a un formalisme qui est beaucoup plus assumé. Là, je trouve que le film marque un peu le.
C'est un mauvais livre, en plus.
Voilà, marque un peu son temps. C'est-à-dire que ces zooms, ces imagérisés, tout ça, ça, voilà, c'est pas ce qui fait la beauté de ce film, parce que De Sica, ça a jamais été vraiment, même s'il a créé, il a participé à créer le néo-réalisme, il a vraiment une carrière très, très inégale. Et ce qui est beau dans le film, et moi, je l'ai découvert aussi, je n'avais pas vu, c'est vraiment un film de fin de carrière, et c'est comment il revient à cette espèce d'humanisme qui a fait ses plus beaux films. Et ce que je trouve vraiment, c'est vraiment l'humanité du regard et la force des personnages qui fait la beauté du film. Ce déni de ces deux familles, parce que c'est des familles juives quand même, c'est ça qui est très très fort. Ils sont juifs et ils ne se rendent pas compte de cet antisémitisme grandissant. Et mettre ça en parallèle avec les frustrations de cet amour éconduit. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, Bassani n'aimait pas trop le film parce que De Sica a clarifié un élément du roman qui était beaucoup plus fou dans le roman, c'est-à-dire c'est la tromperie du personnage de Sanda. Alors je ne vais pas en dire trop. Non, je trouve que c'est un très beau film qui a quand même qui marque formellement et très marqué par l'époque, parce que c'est vraiment la découverte du zoom dont il abuse un peu, mais c'est vraiment un très beau film par son humanité et la force de le romanesque de ses personnages, quoi.
C'est donc Le Jardin des Finzi Contini de Vittorio De Sica. N'oubliez pas de, si vous avez le temps, mais vous l'avez, de vous procurer le roman de Giorgio Bassani. Vous écoutez bien Le Masque et la Plume dans sa version confinée, téléphonique, obstinément et doublement dominicale. Et plus que jamais attaché à ses auditeurs, pareillement confinés. Rendez-vous, film d'André Deschinets de 1985, restauré, disponible en DVD, Blu-ray et VOD chez Carlotta, avec Juliette Binoche dans le rôle de Nina, une jeune provinciale débarquée à Paris qui rêve de devenir actrice. Elle est hébergée par Polo Sevadek Stanzac, et elle tombe sous le charme, alors là on peut dire vénéneux, comme dirait Charlotte, de son colocataire Quentin. C'est Lambert Wilson qui joue dans des spectacles érotiques, un peu comme Eric Nohoff en fin de semaine quand on n'est pas confiné. Quentin qui va arriver, mais je n'en dis pas plus. Hein. Voilà, un film, c'est intéressant, co-écrit par Olivier Assayas. Je le précise aussi en bonus, vous trouverez notamment, toujours chez Carlotta, en bonus, vous trouverez un entretien très intéressant de Deschinets avec notre copain du Masque et la Plume, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles. Rendez-vous, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses
Ben, j'allais dire que c'est un des moins mauvais films produits par Alain Terzian, puisque avec les visiteurs.
Là, là. Je m'attendais à ce qu'on prononce son nom, et voilà, c'est fait.
Non, il y a deux choses.
Est-ce que tu imagines à quel point Terzian doit être confiné aujourd'hui ? Est-ce que tu imagines ?
J'imagine. Mais non, mais c'est pour avoir une pensée pour l'ex-président de César, effectivement. Non, mais il y a deux choses que je trouve qui tiennent le coup dans le film. C'est vraiment le premier grand rôle de Binoche. Et dès ce premier rôle, elle est assez épatante je trouve, de naturel, d'abandon, en plus dans un rôle, je pense qu'il devait faire sûrement écho à ce qu'elle vivait, enfin, en tout cas à son statut de l'époque, de jeune actrice convoitée un peu de toutes parts. Et dans ça, le film, je trouve, reste un portrait assez bien senti, je trouve, de la jeune actrice convoitée, muse et proie pour les uns, fille facile pour les autres, et qui elle essaie juste de se débattre et entre ses sentiments, sa liberté et sa dignité de comédienne, quoi. Il y a vraiment comme ça, je trouve, quelque chose d'assez fort dans le portrait de l'actrice. Et puis il y a l'élégance et la fluidité de la caméra de Deschinets que je trouve fait partie des meilleurs filmeurs du cinéma français. D'ailleurs, je crois qu'il a été primé à Cannes pour la mise en scène du film. Après, je trouve qu'il y a toute une partie du film qui a très très mal vieilli. Il y a toujours chez Deschinets cette envie de romanesque quotidien, c'est-à-dire de filmer il est entre sauter et quelque chose de plus lyrique à certains moments, et là je trouve qu'il a pas encore trouvé vraiment l'équilibre qu'il y aura dans ses plus belles réussites d'après. Et puis il y a vraiment le film, moi je trouve, a un vrai problème dans la première partie, parce que les personnages de Stanzac et de Lambert Wilson sont quand même assez caricaturaux et pas très bons, quoi. Il y a d'ailleurs c'est intéressant de rapprocher les films de, d'un film de, qui sortait la même année, de La Femme publique de Zulawski, qui est à peu près le même sujet, sauf que c'était avec Valérie Capristi, où il y avait également Lambert Wilson.
Et voilà.
Il y a vraiment quelque chose comme ça, d'une forme de d'hystérie un peu poseuse et un peu artificielle dans le personnage de Wilson, avec sa coupe de chanteur d'Indochine, là, qui est quand même très problématique. Alors, après, dans la deuxième partie, quand il réapparaît en fantôme un peu shakespearien, on se croirait dans... Là, c'est vraiment le côté Assayas qui ressort. Mais heureusement, il y a Trintignant qui vient un peu remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Donc, c'est vraiment un film très, très, très inégal et qui fait qu'il est encore vivant, paradoxalement. Un film très bancal qui fait qu'il est... Et voilà, il y a encore quelque chose de vivant dedans qui vient de Binoche et de la mise en scène pour moi.
Eric ?
Bah, si on veut être gentil, on va dire que c'est daté. C'est le genre de film qui se voudrait tout le temps tourmenter presque à la russe avec l'héroïne qui s'appelle Nina, évidemment, comme dans Tchekhov. Mais la pauvre, elle joue la soubrette dans une pièce de boulevard et elle tombe sur Lambert Wilson qui, lui, va faire l'amour au-dessus des spectateurs dans un filet au théâtre des Deux Boules. Et c'est quand même un Lambert Wilson qui est survolté, toujours en nage. C'est quelque chose où la fille veut coucher avec tout le monde. C'est bien parce qu'on redécouvre Juliette Binoche qui était un bébé à l'époque. Et tous les personnages agissent en dépit du bon sens, avec hystérie, comme dit Nicolas. Et il y a un truc très curieux, c'est qu'elle est tout le temps en manteau bleu et qu'on regrette l'imperméable vert que portait Deneuve l'année suivante à Biarritz dans Hôtel des Amériques. Et à un moment donné, apparaît Trintignant en espèce de metteur en scène inspiré. Une scène très, très étrange qu'on revoit. À un moment donné, Binoche lui demande « Tu as déjà aimé quelqu'un ?»
Oui.
Et Trintignant répond « Ma fille, et je l'ai perdue. »
Exactement.
Et rien que pour cette réplique, le film a quelque chose de
prémonitoire. Film de 1985, je le rappelle. Enfin, Xavier ?
Ben moi, je continue de marcher, je suis désolé. Alors, excuse-moi Eric, mais Hôtel des Amériques est antécédent à Rendez-vous.
Pardon.
A été tourné quelques temps avant, puisque moi j'avais vu à la télévision, j'avais découvert comme ça le nom d'André Téchiné. Donc quand Rendez-vous est sorti en salle, je me suis précipité. J'avais à peine 20 ans, je me souviens. J'avais été bouleversé par le film. Ben ouais, moi je trouve que c'est toujours aussi bouleversant, fiévreux, emporté, lyrique, risqué, vraiment effectivement sur le bord du fil et en même temps relevé par à la fois la musique de Philippe Sard. Alors effectivement, ce sont les conventions de l'opéra, les personnages sont peut-être un tout petit peu over à tout point de vue, mais c'est cohérent avec le reste de la série, du film et de la mise en scène. Je trouve Binoche absolument bouleversante. Je suis pas comme toi, Eric. Je trouve que Lambert Wilson est touchant. Il a quelque chose de désincarné, de déjà mort avant que malheureusement, peut-être, le destin ne le rattrape. Ça arrive assez vite, donc on peut le dire. Je fonctionne encore complètement à ce film. Non, c'est un grand film, il faut le redécouvrir.
Charlotte.
Bah oui, oui. Alors moi, vraiment, là, je suis du côté de Xavier. Je me souviens très bien quand j'avais vu le film. Il me restait encore aujourd'hui des scènes que j'avais trouvées extrêmement malaisantes et qui m'avaient non pas choquée, mais en tout cas beaucoup perturbée.
Lesquelles, par exemple?
Je risque de divulgâcher quelque chose, mais tant pis, je me lance puisque tu me l'autorises.
Le crachat.
Jérôme. Ben, voilà, c'est ça. La scène de sexe entre Juliette Binoche et Vadek Stanzak, quand je l'ai vue à l'époque, m'avait vraiment très déstabilisée. Parce qu'il est vrai que dans le film, la sexualité est envisagée toujours comme un rapport de domination ou de possession. Ouais. Et moi, jeune fille, voilà, ça m'effrayait un petit peu tout ça. Mais en revoyant là le film, moi, je trouve qui résiste très très bien au temps parce que c'est un récit initiatique, voilà, de cette jeune fille, et c'est une triple initiation à la fois sentimentale, sexuelle et artistique, et chacun de ces chemins va être un peu pris en charge ou éclairé par les trois hommes, enfin les trois rôles, à savoir Vadek Stanzak, Lambert Wilson et Jean-Louis Trintignant, qui vont chacun à leur mesure amener ce personnage de Nina à se révéler à elle-même. Alors après, le film s'appuie quand même sur un postulat avec lequel on est d'accord ou pas, mais comme quoi il faut avoir des fêlures ou une sorte de douleur intime comme condition indispensable pour être acteur ou pour être un bon acteur. Ça peut se discuter, mais c'est en tout cas le chemin que prend le film. Et là où je trouve Juliette Binoche, je rejoins mes camarades, vraiment exceptionnelle en toute jeune comédienne qu'elle était, c'est qu'elle joue bien une mauvaise comédienne. Cette petite Nina provinciale qui arrive à Paris, elle n'est pas du tout bonne. Et ben, c'est pas évident, ça, de bien jouer une mauvaise comédienne. Et finalement, même si le film a ce côté un peu malaisant de cette jeune fille manipulée par tous ces hommes, ben, c'est quand même elle qui reste debout, quoi, au final. Et c'est elle qui va se nourrir d'eux contrairement aux trois mecs qui vont s'égarer en route. Et puis, par ailleurs, je trouve que Téchiné a une façon de mettre en scène les fantômes, ou en tout cas de faire apparaître les morts, comme on le fait si souvent au théâtre de manière assez naturelle, puisque au théâtre, on peut faire dialoguer des vivants avec des morts. Il y a dans Shakespeare ou n'importe quelle autre pièce, ça marche très bien. Et bien là, je trouve que ça fonctionne aussi. On n'est pas du tout dans une idée de fantôme ou de grandiloquence. C'est très simple. Et Lambert Wilson, dans ce comédien toxique, malsain, excessif, imprévisible, bah c'est quand même, il faut bien l'avouer, l'amant dont toutes les filles rêvent au moins 1 minute 30. Hein. Au bout de 2 minutes, on n'en peut plus. Mais au moins une minute, on a toutes eu ce fantasme-là.
Je te laisse la responsabilité de tes propos. Rendez-vous de Téchiné, c'est chez Carlotta. On murmure dans la ville. Film de 1951 du maître Joseph Mankiewicz qui devait ressortir en salle en version restaurée mercredi prochain. Avec, mais qu'on trouve partout, hein, avec Cary Grant, bel homme, je dirais, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, dans le rôle de Noah Pretorius, gynécologue, patron très humaniste d'une clinique privée qui tombe fou amoureux d'une de ses patientes, Deborah Higgins, jouée par Jean Crane, une future mère célibataire en détresse. Et il l'épouse, il recueille son beau-père, et puis il y a ce collègue... ce rival jaloux qu'est le professeur Elwell qui enquête sur le passé trouble ou le prétendu passé trouble de Pretorius qu'il accuse de charlatanisme et qui s'étonne aussi de la présence à ses côtés d'un vieil homme, formidable dans le film d'ailleurs, qui serait accusé de meurtre. C'est intéressant de savoir que de tous les films tournés par Cary Grant, c'est celui que de très loin il préférait. Eric.
Bah, c'est un film qui était celui que Mankiewicz préférait dans son œuvre, ce qui est un peu curieux parce que apparemment c'est une œuvre un peu mineure, mais bourrée de charme, effectivement. Et c'est un film drôle avec Cary Grant, à qui on avait confié sans qu'il le sache le rôle de Didier Raoult, un médecin dont tous ses collègues étaient jaloux, accompagné, comme tu le disais, d'un personnage très étrange, un géant muet et énigmatique avec un passé un peu trouble qu'on découvrira à la fin. Et il est aussi chef d'orchestre, Cary Grant, tous ses employés, les infirmières l'adorent. Et le film joue là-dessus, sur l'élégance, sur l'humour, parce que toutes les répliques de Cary Grant sont des mots d'auteur. Et on aimerait être soigné par un médecin comme ça. Et le film est aussi un éloge du mariage, qui n'est pas forcément un mariage d'amour, mais aussi un mariage de raison. Et que même les gynécologues ont le droit d'être des époux fidèles.
Bah oui, moi je trouve que c'est une merveille ce film. C'est pas si mineur que ça. C'est vrai qu'il est, c'est pas un Mankiewicz dont on se souvient. Il a tourné juste après Chaîne conjugale et Eve, où il avait été écroulé sous les Oscars. Non, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Mankiewicz avait lui-même fait des études de médecine et qu'il était passionné par ça. Non, ce que je trouve très beau dans le film, c'est qu'il y a à la fois, comme l'a dit Eric, l'intelligence du plaidoyer progressiste, c'est-à-dire que le film brasse quand même un nombre de sujets. À la fois, il oppose cette espèce de médecine comptable que représente Elwell, là, son concurrent jaloux qui enquête sur le personnage de Cary Grant, et puis là, la médecine humaniste tournée vers le corps que vers l'esprit, et c'est presque autant un psychologue qu'un médecin. Et il y a comme ça quelque chose de, le personnage pourrait presque être trop parfait, trop lisse, et pas du tout. Il est parfois justement mis en porte-à-faux par la jeune femme dont il est amoureux. Et c'est là où le film est fort, parce qu'il mélange ce plaidoyer progressiste avec une forme de pétillance et d'alacrité qui vient de la comédie sophistiquée, quoi. Et donc c'est ça, c'est à quel point le film est profond et complexe, et à la fois léger dans son récit et sa manière et son humour, quoi. Donc je trouve vraiment que c'est un très très beau film. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était une pièce qui avait été écrite dans les années 30 par un Allemand, je crois. Et je pense que c'était toute une enquête qui sert de fil conducteur au film, avec un passé un peu trouble dont vous avez parlé, qui mettrait en péril le personnage de Cary Grant et de son assistant. Et je pense que au moment où Mankiewicz le fait, c'est en 1950, et je pense qu'il y a un vrai écho aussi sur à ce qui se passe avec la chasse aux sorcières et cette espèce de quête de vérité, ouais. et de vindicte collective qui s'abat sur certaines personnes sous de faux motifs, quoi. Donc moi je trouve que c'est vraiment un film pas, moins connu que les autres, que certains Mankiewicz, c'est qu'il est vraiment urgent de.
Bah, Charlotte.
Ouais. Alors moi, ça a été vraiment un régal à revoir. Là, pour le coup, je l'avais vu déjà il y a longtemps, mais je m'étais peut-être pas rendu compte à quel point le film était extrêmement moderne dans les sujets qu'il traite et la manière dont il les aborde. Par exemple, le rapport à la paternité dans les années 50. Bon, là, je ne vais pas révéler ce qui se passe dans le film, mais enfin, en tout cas, la paternité qui n'est pas forcément biologique. Et là, accepté par amour pour une femme, je trouve ça très beau. Et c'est vrai que Nicolas rappelait que le film a été fait en plein macartisme, et c'est très très clair que si le film démarre comme une comédie romantique, il prend un virage dans sa deuxième partie, beaucoup plus politique sur les mœurs, et c'est au final un pamphlet contre la calomnie, contre la chasse aux sorcières, et c'est, le film nous invite à la bienveillance, à l'humanisme, au pardon. Je trouve ça très beau. Et il n'y a que des personnages atypiques, en plus, quand on détaille tous les personnages du film, c'est-à-dire une femme enceinte mais célibataire, un père un peu défaillant et raté, un physicien qui s'éclate au train électrique. Enfin, c'est que des personnages comme ça, pas du tout orthodoxes, qui sont absolument réjouissants. Et puis, on va citer Jeanne Crène aussi, parce que c'est vrai que Gary Grant sublime, mais elle est d'une beauté stupéfiante. Et je trouve qu'elle a un rôle de femme extrêmement forte, même très entreprenante dans son désir par rapport à ce gynécologue. Et je trouve ça assez beau. Et donc, finalement, même un Mankiewicz mineur reste très largement.
Mais je ne sais pas pourquoi vous dites tout ce que c'est un mineur. Moi, pour moi, c'est pas un film. Xavier.
On va faire court. Tous mes petits camarades ont été extrêmement à la fois brillants, pertinents et précis sur le film. Effectivement, ce qui saute aux yeux, c'est-à-dire 70 ans plus tard, c'est le modernisme absolu des personnages et des situations que Mankiewicz aborde, qui sont à la fois le macartisme, la délation, la suspicion qui est quand même rampante aux États-Unis à l'époque à travers le personnage d'Halloween. On a un personnage d'homme-enfant, alors qu'habituellement on aime que le cinéma américain repose sur la virilité absolue et infaillible du personnage principal. Lui, il joue avec un train électrique, ce qui est quand même un moment assez troublant dans cette séquence, avec ses copains comme ça à l'étage. Et puis à la toute fin du film, dans un monologue qu'on ne voit pas venir, il y a aussi le questionnement de la peine de mort, autre sujet qu'on ne peut absolument pas aborder à l'époque dans le cinéma américain. Donc derrière les apparences d'une comédie légère, futile, drôle, qui se termine bien, il y a éminemment de sujets très graves qui sont abordés, avec à la fois l'élégance de la légèreté et la gravité qu'il nécessite.
On murmure dans la ville de Mankiewicz, film mineur pour certains d'entre vous, très important pour moi. Allez, et on termine ce masque et la plume, vous l'entendez, à la sonorité imparfaite, mais à la sincérité irréprochable, avec plus rapidement Sexe fou, film de 9 sketchs de Dino Risi, le réalisateur de Parfum de femme, qui date, lui, de 1973, et qui aurait dû également ressortir mercredi prochain, le 8 avril, sur les écrans, mais qu'on trouve en VOD et en DVD, où notamment une maîtresse de maison fait l'amour dès le réveil à son valet, ou un avocat néglige sa jeune épouse et lui préfère des femmes âgées, et même, je dirais, très âgées, où un jeune marié ne peut faire l'amour que dans les transports publics, etc., etc. C'est avec Laura Antonelli, Giancarlo Giannini et Alberto Lionello, Xavier.
Oh, ben ça date, hein. Ça c'est le moins que l'on puisse dire, effectivement. Extrêmement douteux sur les rapports hommes-femmes.
Oui, c'est vraiment avant MeToo, hein, là.
Oui,
Aujourd'hui, le pauvre Dino Risi, ben alors là, il serait crucifié en place publique. Le problème, c'est que si le film était brillant et drôle, on lui pardonnerait certaines petites choses qu'on dirait être de l'époque et qu'on replacerait dans leur contexte, mais sauf que le film ne l'est pas, absolument pas. Il y a un sketch sur les pauvres même à l'époque n'est pas défendable, qui baissent comme des lapins et qui se reproduisent exactement comme ces animaux-là et qui se frappent et qui s'insultent. Ouais. C'est dégueulasse, c'est vraiment odieux. Et je trouve que même de temps en temps, dans certains sketchs, comme le premier et le tout dernier, la toute dernière image du film, il y a une espèce de banalisation, on ne va pas dire du viol, mais en tout cas du droit que les hommes ont sur le corps des femmes,
que je trouve, mais même à l'époque, totalement discutable. C'est pas drôle et c'est totalement oubliable.
J'entends Charlotte opiner.
Ben oui, oui, j'avais peur que Xavier dise que ça soit ultra vieillot parce que le film date de l'année de ma naissance. Mais
oh,
ben voilà. Mais,
deux catastrophes.
Merci Eric. mais oui, c'est vrai, non, c'est terrible. Bon, il y a quand même ici ou là dans les 9 sketchs quelques petites séquences qui m'ont arraché un vague sourire, mais pas beaucoup plus. C'est vrai qu'à le revoir aujourd'hui, le film est assez malaisant dans la manière dont il montre tous ses désirs et cette sexualité où en gros c'est quand même toujours l'homme qui saute sur la femme et femme qui doit obéir. Hein. Là, il n'y a pas vraiment de revanche. Voilà,
il y avait plus de désir et de sexualité dans Parfum de femme que dans, dans tous ces sketchs réunis.
Ouais, ouais. Et puis là, bon, bah, c'est la loi du genre, quoi. Qui dit film à sketch dit grande inégalité. Donc voilà, certains sont regardables, d'autres ne le sont absolument plus. Et les chutes sont attendues. Ça se veut provocateur et c'est juste bête. Voilà. Après, moi, il y en a un qui m'a presque un peu émue parce que si on parle de désir, de sexualité, ça parle aussi de solitude. Et voilà, il y a un des sketchs, je trouve.
Celui du fétichiste.
Voilà, ouais. Avec son ex-femme qui est partie et il va payer une prostituée pour ouais. Faire revivre sa femme partie. Là, il y a une petite idée que je trouve assez émouvante. Pour le reste, passer la beauté de Laurent Antonelli, on peut passer.
Et Nicolas.
Je suis d'accord. C'est un peu le seul sketch que je sauve du lot. Le procès en sexisme, il est que vous lui faites, je le comprends tout à fait parce qu'effectivement la lourdeur de l'humour qui est vraiment du niveau du Colas Rochaud, quoi. Non mais on est à ce niveau-là, c'est ça le problème. Après, je pense que j'allais dire que c'est l'une des seules choses qui sauve un peu le film, c'est la frontalité avec laquelle je pense que Rizzi, tout le machisme du film, il le moque. C'est-à-dire que quand il s'attaque vraiment à l'image de cette espèce de vulgarité, son obsession de la virilité italienne, c'est vraiment un catalogue des déviances, des perversions et de la vulgarité.
Mais Nicolas, quand les femmes sont désirantes, elles sont montrées comme des nymphos totales, quoi.
Mais parce qu'elles se servent de... Oui, parce que... Alors bon, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que ce serait un peu faire beaucoup d'honneur au film, mais c'est vrai que le personnage d'Antonelli aussi se sert aussi des outils qu'on lui laisse à ce moment-là. Mais bon, voilà. Oui. Non, c'est vraiment très, très, très lourd. Il y a quelques répliques de temps en temps qui font mouche, mais c'est d'une lourdeur terrible. Oui, donc voilà, c'est vraiment très triste, parce que la seule chose qui reste vraiment de ce film, c'est la beauté assez hallucinante de Laurent Antonelli, mais malheureusement, elle n'est pas vraiment utilisée à très bon escient, quoi.
Est-ce que, Eric, tu vas sauver Sexe Fou?
Pas le sauver intégralement, mais j'aime bien ça, oui. Ça. Faut pas oublier que c'est...
Ça m'aurait étonné.
Non, mais la couleur est annoncée, le titre, c'est Sexe Fou, et c'est réalisé par un psychanalyste, ce qui était Rizzi avant de passer derrière la caméra. Et il y a à boire et à manger, comme dans tous les films à sketch. Il y a Laura Antonelli, qui est d'une beauté fulgurante, qui porte tout ça à bout de bras. Et moi, je trouve ce côté bon enfant, méditerranéen... Et puis, c'est quand même une charge contre les machos, parce que les hommes sont quand même uniquement obsédés sexuels. Et on passe de la cour de récréation à la chambrée pour finir dans un corps de garde. Il faut un peu se boucher le nez par un moment donné. Mais il y a certaines, des sketchs où affleurent un peu de tendresse. Il y a le sketch avec un travesti milanais, qui est un truc assez inattendu, dont on se dit c'est d'une lourdeur sans nom, et il y a quelque chose qui se passe qu'on ne soupçonnait pas. Et bon, bah, c'est des films comme on n'en fait plus, et rien que pour ça, ça mérite d'être vu.
Bah, tant mieux. Sexe Fou de Dino Rizzi. Allez, le moment est venu des conseils, DVD, VOD, séries. Bien sûr, je compte sur l'ami Xavier, voire de livres. Et on va commencer avec celle qui est née le même jour, la même année que Sexe Fou, c'est-à-dire avec Charlotte.
Vous avez certainement entendu que le CNC vient d'autoriser la diffusion sur des plateformes de vidéos à l'acte, la diffusion de films très récents qui étaient en salle au moment du confinement. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, la fameuse chronologie des médias est brisée temporairement. Et je trouve qu'il faut vraiment, pour tout cinéphile, aider comme on peut l'industrie du cinéma, qui, comme beaucoup de secteurs, est particulièrement touchée par la crise qu'on traverse en ce moment. Et donc, il y a une trentaine de de films très récents qui étaient en salle, comme La fille au bracelet, Les siffleurs ou Un divan à Tunis, qui sont des films dont on a déjà parlé au masque.
Au masque,
qui vont, voilà, qui vont être accessibles dans les heures qui viennent sur des plateformes. Et là, je ne parle pas des mastodontes américains sur abonnement que vous connaissez tous, mais des plateformes françaises. Et donc, on peut louer le film pour quelques euros. Et je trouve que, voilà, si on en a les moyens, il faut vraiment soutenir le cinéma d'auteur qui en a vraiment besoin.
Merci pour ce bon conseil. Eric ?
Eh ben, sur OCS, là, la chaîne de télévision d'Orange, il y a trois films de Kakoyannis qui n'était pas seulement le réalisateur de Zorba le Grec. C'est Le Réveil du Dimanche, La Fille en Noir et Fin de Crédit, qui datent de 54, 56 et 57. C'est des films qui prouvent que la nouvelle vague n'avait rien inventé, que ce type-là, déjà, faisait à Hydra, à Athènes, en noir et blanc, avec des personnages d'intellectuels, de riches décavés en train de faire faillite, à tout un côté Dolce Vita. Qui a été vraiment pour moi une découverte absolue.
Le conseil de Nicolas.
Bah écoute, comme on est dans une période très particulière et que au lieu d'orienter vers un film, je vais orienter plutôt vers des endroits où on trouve beaucoup de très bons films et à chacun de s'y forger son chemin. Moi, je conseillerais notamment le site La Cinéthèque qui liste les films préférés des cinéastes, de plein de cinéastes et qui les propose en VOD. Et donc ça, c'est formidable. Il y a Carlotta, excellent distributeur de films de patrimoine qui vient de lancer son vidéo club en ligne. Donc vous y trouverez des aussi bien les premiers Milos Forman que Deep End de Skolimowski ou Panique sur Florida Beach de Joe Dante. Donc voilà, vraiment, c'est pratiquement que du bon. Et puis, quand même, préciser que la Cinémathèque et le Forum des Images ont mis en ligne gratuitement, depuis le début du confinement, toutes leurs archives. Et c'est des centaines de masterclass de grands noms. Ça va de James Gray à Robert Redford, à Chabrol, Tavernier, à Neukeu. Enfin, il y a vraiment plein de choses à voir et à écouter. Et donc, tout ça, c'est vraiment des sources formidables pour nourrir notre soif de cinéma en ces temps compliqués.
Xavier, quelle série il faut qu'on voit ?
Alors moi, je vous recommanderais Khalifa sur Netflix, qui est une série suédoise et qui est une sorte de Homeland suédois, c'est-à-dire trois femmes, une policière, une jeune adolescente mineure rêvant de rejoindre l'État islamiste et une autre mère d'un enfant cherchant justement à fuir l'enfer de Daesh, vont se croiser sur fond de préparation d'attentats. Ça fait très peur, c'est hyper réaliste, c'est remarquablement écrit en termes de suspense, c'est haletant. Je vous recommande vraiment Netflix, Khalifa. Et puisque je viens de parler d'un mastodonte, pour m'en excuser, je vous recommande également à partir de la semaine prochaine, directement sur le site de France TV, donc francetv.fr, une série hilarante, une sitcom française, sur les coulisses et les arcanes du Parlement européen à Bruxelles. Et sur...
Et c'est bien ça ?
Ah, c'est très très drôle, ça s'appelle Parlement. C'est sur les incompétences et les incohérences des députés. C'est extrêmement amusant. C'est, au début, on se dit la charge est un peu lourde. Et puis au fur et à mesure, on voit se débattre un jeune attaché parlementaire. On se dit que non, peut-être qu'il y a un petit soupçon de vérité derrière cette comédie.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur la page du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Eric Nohoff, Nicolas Chalère et Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et réalisée depuis sa salle de muscu par Xavier Pestugia. Je vous dis à dimanche prochain. 11h et 20h pour un Masque et la Plume littéraire, cette fois sur France Inter, évidemment.